L'infime est comme une énorme horloge. Elle ne tournera que si tous les petits engrenages peuvent s'imbriquer. Les meilleurs ont des engrenages à quartz, conçus pour durer. Et si on personnifiait chaque engrenage ? Admettons que les plus importants soient le ou la réalisatrice et le ou la scénariste. Leurs mouvements entraînent ceux des producteurs ou productrices qui mettent en marche le reste de la machine. Puis suivent les acteurs, actrices, les décors, les costumes, la direction de la photographie, les effets spéciaux et la musique dans tout ça. J'ai conscience qu'elles ne semblent pas essentielles. Après tout, dans ma chronique sur Portrait de la jeune fille en feu, j'expliquais en quoi la quasi-absence de musique est utile. Mais justement, ce parti pris inscrit quand même la musique dans le film, car le fait de ne pas en mettre est un choix qui véhicule un message ou une émotion. Et c'est là le but de la musique de film. Par exemple, dans le film Alice, du réalisateur tchèque surréaliste Jens Wankmajer, l'absence de musique est expliquée par le fait que le personnage principal, à savoir Alice, est dans un monde onirique, rêvé. Et quand on rêve, on n'entend pas de musique tout du long, comme lorsque nous sommes éveillés. L'important au cinéma est avant tout de savoir quoi faire de sa musique. Mais alors, comment se construit une bonne musique de film ? Et pourquoi est-ce si important d'avoir une musique réfléchie ? Bonjour à tous, je suis Céleste, et aujourd'hui on va parler de l'architecture d'une musique de film. Commençons d'abord avec un peu d'histoire. Au commencement était le film muet, souvent court. Un certain Charles-Émile Reynaud invente un procédé permettant de projeter des figures animées sur une toile. Nous sommes alors à la fin des années 1890, et oui, c'est le tout début des dessins animés. Il charge un homme nommé Gaston Paulin d'écrire une partition pour chacune de ces petites animations. Elles étaient ensuite jouées en direct sur un piano, par le compositeur en personne, lui permettant d'improviser de temps en temps. On a là les prémices de la musique de film à la fin du 19e siècle. Quelques années plus tard, entre 1902 et 1917, la réalisatrice française Alès Guy, encore une fois une pionnière, tente une expérience. Celle de coupler le son avec l'image. Bien que ce n'était que pas vraiment de la musique à proprement parler, c'était le début de l'accompagnement sonore qui a permis les avancées techniques qui ont suivi. Ça fonctionnait grâce à un procédé qui démarrait un phonographe en même temps que la pellicule était diffusée. Malheureusement, ce n'était pas sans défaut, et il arrivait souvent que tout soit décalé. En 1908, le compositeur Camille Saint-Saëns compose la musique du film muet L'assassinat du duc de Guise. Il s'agit de la première musique commandée à un compositeur de renom. Et c'est pour ça que c'est l'une de ses compositions qui a ouvert cette chronique. 7 ans plus tard sort le tout premier blockbuster de l'histoire du cinéma, Naissance d'une nation. Un film qui a plus de l'intérêt en tant que révolution filmique et technique, plutôt que pour son propos raciste et pro-Ku Klux Klan. Et c'est le compositeur Joseph Carl Braille qui a l'honneur de composer la musique de film, qui dure quand même près de 3 heures. La suite, vous la connaissez. La musique a peu à peu arrêté d'être jouée en direct pour rejoindre des bandes de cire, puis le son était enregistré directement sur la pellicule en un signal sinueux appelé sinusoïde, qui était ensuite lu par un projecteur relié à des haut-parleurs. Malheureusement, plus le film était joué, plus la pellicule s'usait, et plus le son et la musique se dégradaient. On est là avant les années 30. Puis les procédés ont continué à évoluer, de plus en plus sophistiqués jusqu'à atteindre ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors, me direz-vous, maintenant qu'on a parlé technique, dis-nous comment fait-on une bonne, et j'utilise les guillemets, musique de film ? Eh bien, c'est comme tout travail, il faut l'organiser. Parce que c'est bien sympa d'avoir une musique quelconque pour accompagner l'action, mais si elle ne raconte rien, ça ne va intéresser personne. Car oui, la musique doit raconter une histoire, tout comme le scénario, c'est le propre du cinéma. Et pour cela, les compositeurs vont s'inspirer des plus grands. Car bien que la musique de film date du début du 19e, la musique tout court est bien plus ancienne, et on l'utilisait déjà pour raconter des histoires. Dans l'opéra, par exemple, chaque instrument, chaque partie d'orchestre était utilisée à des fins utiles. Prenons l'Anneau du Nibelung, un opéra de Richard Wagner qui dure environ 16 heures. Cette musique est une pionnière dans l'utilisation des leitmotivs. Un leitmotiv, qu'est-ce que c'est ? C'est un bout musical, qu'on appelle une phrase, qui sert à caractériser un personnage, un objet ou une idée. Par exemple, ce thème, assez connu, renvoie aux Valkyries de l'opéra de Wagner. Les Valkyries, en quelques mots, ce sont des divinités mineures, grandes guerrières au service d'Odin dans la mythologie nordique. Ça veut dire qu'à chaque fois que les Valkyries sont importantes dans l'histoire, le thème est entendu. Je vais prendre un autre exemple bien plus contemporain. Ce thème, tiré de Star Wars qui a marqué l'histoire du cinéma, caractérise le côté obscur. Ici, il est très martial, très militaire. On l'entend grâce aux percussions très marquées et très strictes. Il est utilisé pour la première fois dans l'épisode 5, durant lequel l'Empire Galactique, donc les méchants, sont au summum de leur puissance, d'où le côté presque triomphant de la musique. Ce thème va revenir plusieurs fois dans la saga, notamment dans les films 1, 2 et 3 qui sont sortis après, où la numérotation des Star Wars est un peu bizarre, racontant la naissance de l'Empire et de son grand méchant, Dark Vador. Dans ses compositions, John Williams, le compositeur, va utiliser des variations de son thème pour signifier aux spectateurs avertis que l'on a affaire au côté obscur. Par exemple, dans l'épisode 1, où l'on suit un Dark Vador enfant, donc qui n'est pas encore le visage de l'Empire Galactique, le thème composé par John Williams est enfantin, avec l'utilisation de flûtes, cordes aiguës pour la pureté de l'enfance. Mais à la fin de ce thème juvénile, on entend une variation beaucoup plus lente du thème de l'Empire, mais tout aussi grave qui contraste avec le reste du thème d'Anakin, donc Dark Vador enfant. Et c'est grâce à ce principe de leitmotiv que la musique du film fonctionne efficacement. Ça et l'utilisation d'instruments particuliers ou de notes pour caractériser des choses évidentes. Les notes aiguës et lentes jouées par des bois, flûte, hautbois, clarinette, par exemple, peuvent représenter la candeur, l'innocence, la pureté, encore une fois, l'enfance. Les notes graves sont là pour les événements et personnages plus obscurs. Les cuivres, comme les trompettes, tuba, accompagnent le grandiose et le spectaculaire. L'un des exemples les plus connus est Empire et le loup de Prokofiev, où chaque instrument symbolise un personnage. Le hautbois pour le canard, la flûte traversière pour l'oiseau, les cors graves pour le loup, etc. Une prochaine fois, je vous ferai une chronique spéciale avec plein d'exemples à décortiquer car je veux passer du temps là-dessus et passer un peu de musique. Aujourd'hui, on continue avec un tout petit peu de théorie en revenant à notre question de base. Pourquoi est-ce si important d'avoir une musique réfléchie, structurée dans un film ? Eh bien, la musique est un vecteur d'émotion. Elle permet d'enrober l'action qui nous est montrée dans un joli papier cadeau. Aussi, si la scène est triste, la musique prendra des accents mineurs et aura un ton triste pour accentuer le dramatique de la scène. A l'inverse, si c'est une scène joyeuse et triomphante, la musique fera de même pour nous donner des émotions supplémentaires, ou du moins les accentuer. Celle-ci pourra aussi prendre de l'avant sur l'action, grâce encore une fois au thème, qui, une fois couplé, peut nous faire ressentir le pire, comme le fait d'ajouter le thème sombre dans l'Empire dans une musique enfantine et joyeuse. Et c'est pour ça que l'utilisation de leitmotiv est importante. Elle permet de développer l'histoire grâce à la musique, comme j'ai évoqué avec l'exemple de Star Wars, le thème impérial qui évolue en fonction des situations. De mener et développer ce thème sur plusieurs films, et donc de développer les émotions du spectateur. C'est d'ailleurs ce que je reproche à certains films actuels, notamment les films Marvel qui sont presque dépourvus de leitmotiv, à part le thème des Avengers qui est le seul à rester tout au long de la grande saga. Ne pas avoir ces thèmes qui caractérisent les personnages, les objets ou même les lieux, c'est risquer de perdre le spectateur et de ne pas lui délivrer suffisamment d'émotions. Structurer sa musique, c'est structurer son récit. Et c'est comme ça que naissent les grands films, ou du moins les grandes compositions. C'est tout pour moi, enfin du moins pour cette fois. Je garde encore quelques trucs dans ma manche pour une prochaine chronique, car je n'ai pas envie de tout vous dévoiler maintenant, ça ferait une chronique de 3 quarts d'heure, et c'est un peu long 3 quarts d'heure. Je vous laisse sur une composition de Michael Giacchino, je n'allais tout de même pas parler de musique sans le placer. Il s'agit de Nine to Survival Job, issu du film Jurassic World, dont je n'aime que la bande originale, ça arrive. Dans cette composition, il y a 3 thèmes, je compte sur vous pour les remarquer. Pour vous aider, il y a d'abord le thème de la famille survivante, musique relativement douce et calme, avec des cordes qui s'enchaînent, pour symboliser le côté soudé de la famille, un piano pour la partie calme après le combat, et quelques instruments de l'orchestre pour faire le lien entre les deux. Ce thème enchaîne sur celui du film, avec le reste de l'orchestre qui se « réveille » entre guillemets, avec des cuivres pour la grandeur des dinosaures. Et le tout se termine sur 3 notes du thème de Jurassic Park, donc les films originaux, composés par John Williams, pour le côté héritage de l'œuvre. J'espère que cette chronique vous a plu. Voyez des films, intéressez-vous à leur musique et à leur thème, portez-vous bien. Salut !